Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il existe une pratique religieuse qui pour beaucoup paraît aujourd'hui d'un autre âge, la prière pour son pays. Dieu serait-il devenu nationaliste? Pourrait-il s'intéresser au pays? Se pourrait-il même qu'il intervienne dans l'histoire de ces derniers? Bref, quelle est cette pratique qui paraît désuète de prier pour la France? À quoi sert-elle? D'où vient-elle? Qui sont ces personnes qui prient pour leur pays? Alors, ce matin, pour parler de la prière pour la France avec cette question toute simple, comme cela arrive souvent dans cette émission, pourquoi faire? Je reçois Benoît Flourius. Vous êtes responsable du groupe de prière Saint-Louis de France. Bonjour.
Oui, bonjour.
Marie-Françoise Doucet, vous êtes membre de ce même groupe de prière. Bonjour.
Bonjour à tous.
Nicolas Larger, vous êtes fondateur du site internet prionspourlafrance.com. Bonjour.
Bonjour.
Et le père Jean-Bertrand Collat, qui est prêtre accompagnateur du groupe de prière Saint-Louis de France et qui est directeur de la section Midi-Pyrénées du pèlerinage du Rosaire. Bonjour, mon père.
Bonjour.
Alors, en début de cette émission, on pourrait commencer tout simplement par présenter ce que c'est que ce groupe de prière Saint-Louis de France. Voilà, parfois, certaines personnes dans l'Église peuvent avoir des a priori avec ces groupes de prière. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui vous êtes, Benoît Flourius, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas?
Ben, écoutez, je suis un simple laïc, père de famille. Élevé dans une piété naturelle, enfin, familiale, où j'ai toujours vu mes anciens prier pour le pays tout naturellement, sans excès, comme on prie pour nos enfants, nos parents, nos morts. Donc c'est dans un cadre de... Il y a une piété filiale et familiale qui a été tout petit, qui nous a été inculquée. Ayant vécu et travaillé à l'étranger, j'ai vu que dans les autres pays, on priait aussi bien sûr pour les familles, les personnes et aussi pour les nations. Et quand je suis revenu, je me dis, oui, ben, ça conforte un peu ce que je pensais. Et j'avais vu, le fait de vivre à l'étranger m'a permis d'avoir un autre regard sur la France. Et de voir à quel point on était dans un pays qui avait une très grande richesse, un très grand héritage spirituel. Donc du coup, j'ai fréquenté un groupe de prière qui était informel, à la fin des années 90. Et je peux le citer, c'est M. Fernandez qui à l'époque avait créé ce groupe, mais c'était un peu l'église des catacombes, je dirais.
Parce et donc le groupe de prière Saint-Louis de France?
Non, il n'existait pas officiellement.
Il n'existait pas, d'accord.
Et on lui demandait de ne pas faire trop de publicité. Voilà, c'était jugé très incorrect. Bon. Et au petit à petit, les mentalités ont commencé à changer. Et ce groupe a failli disparaître, et vers l'an 2000-2001, il m'est tombé sur les bras et on m'a dit Benoît, il faut vous en occuper.
Alors juste le groupe de prière Saint-Louis de France aujourd'hui, je sais pas, il y a combien de personnes, c'est quel type de personnes et qu'est-ce que vous faites?
Alors en moyenne, que ça soit pour les chapelets ou les rosaires, il y a un minimum de 18 à 25 personnes. En sachant que vous avez des personnes qui viennent une fois sur trois en fonction de leurs obligations familiales ou professionnelles. Ça touche essentiellement un public populaire. Cette piété populaire qui a toujours existé au cours des siècles, qu'on a un peu oublié, puisque le catholicisme français s'est un peu embourgeoisé. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que non seulement c'était des Français de souche, mais aussi des Français d'origine étrangère. Par exemple, le rosaire qu'on a eu à Notre-Dame de la Dalbade, qui est notre quartier général, je dirais, depuis plus de 15 ans, on avait un Mexicain, une femme d'origine congolaise, sans compter les gens d'outre-mer et des chrétiens du Levant.
Alors je me retourne vers vous, Marie-Françoise Doucet, vous faites partie de ce groupe de prière. Alors qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez rejoint le groupe de prière Saint-Louis de France? Et pourquoi peut-être pour vous c'est important de prier pour la France?
Je prie pour la France environ depuis une quinzaine d'années. C'était très important pour enraciner ma foi. Je suis née donc d'un milieu de paysan, gersois, avec le respect de toutes les traditions. Pour moi, c'est une évidence, parce que la France, d'abord, en a besoin. Actuellement, on passe une crise grave, la situation est délicate, et je sais que le bon Dieu écoute toujours la prière de ses enfants. Donc, c'est un acte de confiance totale et d'abandon total envers Dieu, et surtout qui me permet de vivre dans l'espérance. C'est très, très important. C'est un engagement concret. C'est mon devoir de chrétienne. Ça m'apprend à aimer de plus en plus mon pays et de respecter mes ancêtres.
Alors, Père Jean-Bertrand Colas, je me tourne vers vous. Vous êtes prêtre accompagnateur. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas le seul à accompagner ce groupe de prières. Je ne me trompe pas, traite, vous me corrigerez.
Il y en a d'autres.
De fait, est-ce que parmi vos frères dominicains, puisque donc vous êtes dominicain, vous en avez certains qui vous disent, voilà, qu'est-ce que tu t'es embarqué là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prière pour la France, ou est-ce que de fait, la prière pour la France, c'est assez naturel, même chez les dominicains?
Je pense que c'est naturel à toute âme chrétienne. C'est naturel à toute âme chrétienne parce que finalement cela rentre dans le cadre de cette justice que l'on doit, ce qu'on appelle la piété. Mes autres frères, d'une certaine manière, je suppose, prient pour le pays. Je crois qu'il va même y avoir une intention pour la France, une messe qui vient un de ces dimanches au couvent, qui a été accepté par le frère qui s'occupe de la paroisse. Non, je crois que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Je reprendrai ce que disait Benoît tout à l'heure. Il se trouve que j'ai passé plus de 6 ans en Haïti. Et il est un fait que là-bas, on prie tout naturellement pour son pays. Il n'y a pas une prière publique, de groupe de prières, messe, etc., où on ne prie pas pour le pays. Pas simplement parce qu'il passe des difficultés, mais parce que ça apparaît tout à fait naturel. Et une petite anecdote, moi qui m'avais fait un peu de la peine, mais qui éclaire aussi un peu la gêne qu'il y a de parler de ce sujet. Il se trouve qu'il y avait une religieuse qui priait pour Haïti, française. Et un jour, on a eu une intention de prière pour la France, je ne sais plus à quelle occasion, il devait y avoir des élections ou quelque chose comme ça. Et elle était furieuse parce qu'elle disait, ça n'est pas la même chose de prier pour Haïti ou de prier pour la France. Et sortir de cette schizophrénie, je crois, est nécessaire, à condition bien sûr qu'on lui redonne de vraies bases, de bonnes bases, qui s'enracinent dans la doctrine de l'Église, dans la piété de l'Église, en faisant foin d'un certain nombre d'idées qui peuvent être dépassées, mais qui peuvent polluer effectivement la chose.
Alors on reviendra peut-être un peu plus tard dans l'émission sur justement les racines de la prière pour la France. Peut-être pour continuer à faire tomber un peu les préjugés. Parfois, quand on entend groupe de prière Saint-Louis de France, on se dit, oh là là, c'est tradit de service, ils doivent tous voter Front National. Est-ce que vous pouvez nous dire, Benoît Florius, j'imagine que vous ne savez pas ce que votent les gens qui viennent, mais peut-être, vous me disiez en préparant cette émission, qu'il y a des gens très divers, vous l'avez dit déjà, et qu'il y a différentes sensibilités, soit politiques, soit d'église.
Ben, écoutez, c'est certain que nous ne faisons pas de la politique politicienne. Moi, je considère, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, c'est un acte, non seulement un acte spirituel, mais politique au vrai sens du terme, où c'est pour le bien de la cité. Les gens qui viennent, je vous ai dit, sont essentiellement de classe populaire, d'origine diverse, d'origine française et d'origine étrangère. Beaucoup de recommençants. Je devine les sensibilités politiques de certains, mais la plupart des Français connaissent une forte désillusion de la vie politicienne française et reviennent à l'essentiel, à la foi. Donc, c'est même plus un clivage droite-gauche. Moi, je pense à quelqu'un qui... J'ai un jeune qui me fréquente, il vient de l'extrême-gauche, vous voyez ? Et ils découvrent la foi. Vous voyez, d'autres, ils viennent des courants tradis. Alors que comme je dis aux personnes, quand vous venez, nous, on fait de l'œcuménisme, au bon sens du terme, l'œcuménisme catholique, c'est à mon avis le plus difficile par rapport aux autres églises, c'est que vous avez aussi bien des gens d'esprit traditionnel, des gens qui sont charismatiques, d'autres qui sont des recommençants, il y a différents courants. Comme je l'ai dit, vous pouvez tutoyer, vous voyez notre Père, je m'en fiche, vous pouvez prier assis, debout, en lotus, on s'en fiche. L'essentiel, on est sous la même autorité et on respecte le même dogme. Voilà, pas plus.
Nicolas Larger, peut-être avant qu'on fasse une première pause musicale, vous avez donc créé ce site internet, prions-pour-la-france.com. Vous me disiez aussi en préparant cette émission que souvent, c'est des choses qu'on faisait de manière assez cachée parce que c'était pas toujours très bien vu. Est-ce que vous avez eu à faire face à ces a priori sur la prière pour la France? Et puis, je sais pas, comment vous l'avez vécu?
Moi, je suis venu au groupe de prière un petit peu plus tard que Benoît et Marie-Françoise, mais depuis très longtemps, j'ai cette conscience-là. Et surtout, ce qui m'a beaucoup choqué dans ma jeunesse, c'est qu'au 15 août, fête de Marie, la patronne de la France, il y avait très rarement une prière pour la France, même dans les petites églises de village. Et ça, pour moi, c'était toujours un retournement. Et Je dirais que c'est Jean-Paul II un petit peu qui m'a fait venir tout doucement à la prière pour la France, et j'ai volontairement cherché le groupe de prière pour la France parce que j'avais ce besoin-là. Intrinsèquement.
Et pourquoi vous avez créé ce site internet, alors Prions pour la France? C'est fort de ce constat, vous êtes dit, il faut faire quelque chose?
Parce qu'on était complètement isolés et qu'il fallait absolument avoir quelque chose qui fédère ces idées de prière. On avait l'impression d'être tout seul, d'être comme quelque chose de complètement, même rejeté un petit peu par l'Église, et qu'il fallait absolument fédérer un tout petit peu toutes ces actions-là. Ce qui fait que j'ai pris contact avec beaucoup d'autres groupes de prière. Au début, on était deux ou trois en France à avoir cette démarche-là, et maintenant, ça a explosé.
Quand vous dites au début, c'était quand? Au début, c'est...
Dans les années 2007-2008, à peu près.
D'accord. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes ce matin dans Vivante Église. On va faire une pause et puis après, on parlera de la prière pour la France. Alors, on l'a déjà évoqué très rapidement, mais d'où ça vient, quel sens ça a, et puis surtout, nous expliquer, est-ce que c'est réellement voulu par le ciel ?
Ton instrument, Seigneur, que chaque jour je puisse être ton instrument.
Emmanuel Pella.
Ce matin, nous parlons donc de la prière pour la France avec cette question toute simple, pourquoi faire ? Pour rappel, si vous nous prenez en cours de route, je reçois ce matin Benoît Flourieux, qui est responsable du groupe de prière Saint-Louis de France, Marie-Françoise Doucet, qui est membre de ce groupe de prière, le père Jean-Bertrand Collat, qui est prêtre accompagnateur également de ce groupe de prière, et puis Nicolas Larger, qui est fondateur du site de prière prions-pour-la-france.com. Alors je me tourne vers vous, Nicolas Larger, puisque vous êtes un peu l'historien du plateau de ce matin, nous dire un peu d'où, de quand ça date cette prière pour la France. Alors beaucoup, enfin la forme que ça prend la plupart du temps, c'est qu'on prie la Vierge Marie pour la France. Certains le savent, d'autres le savent moins. La France a été consacrée en fait à la Vierge Marie par Louis XIII en 1638. Alors est-ce que vous pouvez nous dire à gros traits, pour des néophytes que nous sommes, cette tradition de prier pour la France, c'est le groupe de prière Saint-Louis de France qui l'a inventé, ou alors est-ce que ça existe depuis fort longtemps?
Non, c'est très ancien, et je dirais que ça vient des racines de la France, fille aînée de l'Église. Clovis a fondé plusieurs abbayes, dont l'abbaye de Moissac à côté. C'est pas prouvé complètement historiquement, mais Sainte-Geneviève à Paris. Et plusieurs rois, dont Charlemagne, même Hugues Capet, étaient fondateurs, voire abbés d'abbayes. Et il demandait à ses abbayes de prier pour le royaume et de prier pour le roi. Donc déjà, à cette époque-là, et dès qu'il y avait un grand événement dans le royaume, on demandait la prière du peuple. Un peu comme le président des États-Unis, de temps en temps, demande de prier pour lui, dans certaines circonstances. Cette prière existait et était naturelle. Et on l'a un peu abandonnée, elle est tombée en désuétude. Et là, on ne fait que renouer des fils par rapport à cette prière. Après, il y a d'autres événements très importants, genre le baptême de la France, qui est un baptême...
Alors redites pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis le sens que ça... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça date de quand, le baptême de la France ? Et qu'est-ce que ça veut dire, le baptême de la France ? Qu'on peut baptiser des personnes, mais peut-être baptiser un pays ?
Voilà. En fait, le baptême de la France est passé de cette manière-là. C'est Clovis, le roi des Francs, qui a été converti par Sainte Clotilde, et qui a été baptisé un 25 décembre. Alors, on n'est pas sûr de l'année, ça serait 495. Et qui en même temps a fait baptiser tout son entourage, entre 3 et 6 000 personnes, est dit dans les textes. Hein. Donc c'est quand même un certain nombre de personnes. Et par là même, il a montré que lui-même et son entourage, donc ses compagnons, ses chefs politiques et militaires, passer à la foi catholique. Alors il faut savoir qu'à l'époque, la foi qui régnait en France était catholique, mais il y avait aussi une hérésie arienne qui rongeait le pays, et le pays était en surface à 75% arien et 25% catholique. Donc le geste de Clovis a été à l'encontre de ça. S'il avait voulu faire une action politique pour gagner le pays, il aurait fallu qu'il se convertisse à la foi arienne. Donc il a vraiment fait un geste de piété. Et c'est là qu'est le baptême de la France. Et que les papes, ensuite, ont reconnu cet événement comme étant important.
Ah, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la consécration de la France à la Vierge Marie ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? De quand ça date ? Et comment ça s'est fait ?
Elle est très vieille. Elle date, les Français ont pris la Vierge Marie pour leur pays de longue date. On pense même que des Gaulois, il y avait des vierges qui existaient, qui étaient des vierges gauloises, enfin des statues gauloises, et qui sont venues jusqu'à la Révolution.
Alors je vois le frère, le père Jean-Bertrand Collat lever les yeux au ciel, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. Alors de fait, hein, les Gaulois ne connaissaient pas forcément le Christ, donc bon, c'était un peu... Mais en tout cas, continuez. La
consécration a eu lieu par Louis XIII, donc le 10 février 1638, et elle a été consacrée à Marie de l'Assomption. Et la fête du 15 août et la fête du pays, et le fait que le 15 août soit une fête nationale, vient de cet événement-là. Et à cette période-là, il était dit une messe à Notre-Dame, sur un autel consacré à Marie de l'Assomption.
Voilà. Alors, ça suscite tout de suite beaucoup de questions. Alors, ma première serait la suivante. C'est-à-dire que quand on entend parler, et là je me tourne vers vous, peut-être Père Jean-Bertrand Collin, d'un baptême d'un pays, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, comment dire, le baptême est lié normalement à une personne. Un pays, c'est quoi? C'est juste des paysages, des montagnes et des frontières. Comment on peut baptiser un pays? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un peu rapide. De fait, on ne baptise que des personnes. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que la personne a à la fois une dimension individuelle et une dimension sociale. Et que dans cette dimension sociale, elle participe et reçoit de la communauté à laquelle elle appartient un certain nombre de choses qui lui permettent de s'édifier dans sa vie naturelle et normalement aussi l'ouverture vers sa fin surnaturelle. Donc parler du baptême de la France, c'est tenir compte, si je puis dire, de cette dimension aussi sociale et d'implication sociale de la personne humaine. Ce que rappelle un certain nombre de papes, je sais que le propos, vous le savez, a été assez critiqué à un moment donné, lorsque le pape, Jean-Paul II, lors de sa première visite en France, au Bourget, s'est exclamé, France,
en 1986,
voilà, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême?
Ça avait fait jaser d'ailleurs.
Ça avait fait beaucoup jaser.
Y compris dans
l'Église. Lorsqu'il est revenu, et où ça a été encore plus polémique, justement au moment de l'anniversaire du baptême de Clovis, officiellement appelé comme cela, il a fait toute une espèce de circonlocution pour éviter d'employer cette idée, mais il est un fait que, d'une certaine manière, les nations, les pays, ont une âme qui vient de cette participation de chacun au bien commun. Et donc, c'est se mettre dans cette lignée-là, de façon à ce que l'âme, c'est quoi? C'est un principe de vie, c'est un principe d'unité. Et donc, prier pour son pays, dans cette ligne du baptême, c'est faire en sorte que le pays puisse trouver et son unité et permettre à tous ceux qui y sont de vivre de telle sorte qu'ils puissent parvenir au but qui leur a signé. Ce qui faisait, je dirais, deux petites choses pour terminer. Ce qui faisait dire que dans l'ordre naturel, c'est Pie XI qui disait cela, reprenant saint Thomas d'Aquin, dans l'ordre de la charité, la politique est la plus haute des actions qui puissent être faites. Ensuite, la prière pour la France, officiellement, je le précise, existe toujours, puisque, vous le savez, il y a trois départements concordataires, et que le 14 juillet, fête nationale de la France, à Strasbourg, on doit officiellement chanter à la fin de la messe le Domine Salvum Fac Regem, et l'évêque doit prononcer un sermon qui honore justement cette dimension politique au sens noble du terme du pays et de la piété.
Et cette prière que vous citez, quelle est-elle en fait?
Domine Salvum Fac Regem, Dieu sauve l'État, est suivi d'une prière pour la France qui est dite à la fin à la messe et qui remplace celle qui était dite jusqu'à la Révolution française ou sous la Restauration où l'on priait le Domine Salvum Fac Regem, Dieu sauve le roi, en tant qu'il est chargé justement du service du bien commun.
Alors Benoît Florieux, je vous donne la parole. J'ai une autre question. C'est que derrière tout ça, parfois il y a cette inquiétude d'un Dieu qui privilégierait certaines nations. Alors évidemment, on a en tête des images de films. Alors ce ne sont peut-être que des films où les deux adversaires prient Dieu, priant pour que Dieu accorde la victoire à la France, d'autres priant pour que Dieu accorde la victoire à la partie adverse. Est-ce que cette inquiétude est fondée? Et si oui, comment vous y répondriez?
Alors avant de vous répondre tout de suite, un petit détail qui va compléter ce que vient de dire Monsieur l'abbé. À Fatima, je vous fais quand même remarquer.
Donc Fatima, cette apparition de l'apparition de la Vierge à Fatima au Portugal.
Il y a eu l'ange du Portugal qui est apparu. Il est bien dit l'ange du Portugal. Donc il y a bien une dimension spirituelle. Ce qu'on oublie, ce n'est pas. On parle de la vocation de la France, mais chaque nation a une vocation. Chaque individu a une vocation, chaque famille a une vocation. Ce n'est pas une exclusivité. Mais ce qui est certain, c'est que la France a une vocation bien particulière, une vocation par son baptême, qui remonte à l'époque de Clovis, et en même temps, elle est devenue fille aînée de l'Église. Des fois, une fille indigne, mais une fille aînée de l'Église. Et on le voit sur le plan même international, les liens qu'il y a par exemple avec le Vietnam. Par exemple, je pense à l'anecdote à frère Marcel Van, qui est un Vietnamien et qui s'est mis à prier pour la France, et qui voit bien le lien spirituel qu'il y a entre ce pays, le Vietnam, qui est à l'autre bout du monde, et le pays.
Alors peut-être pour pas que ça vire au débat de spécialistes, parce que Marcel Van, il faudrait réexpliquer un peu qui c'est avant. Je vous repose la question soit à vous, soit au copère Jean-Bertrand Collat. Quand on a cette inquiétude où on se dit, mais alors bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc des pays, comment dire, il y aurait une dimension spirituelle ou une protection de Dieu pour les pays. Est-ce à dire que Dieu, du coup, est nationaliste? Alors comment vous répondez peut-être à cette inquiétude ou à ce questionnement?
Non, mais il aime, disons... Si les gens connaissaient un peu plus la doctrine sociale de l'Église, ils découvriraient que Dieu, disons, nous aime, aime, disons, les personnes, aime toutes les communautés naturelles, comme les familles, les nations. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas l'universel. Je crois qu'il y a aussi, je pense en France, on n'arrive pas à comprendre qu'on doit aller du particulier à l'universel. Je pense que les Français ont un problème, ils ne s'aiment pas. Et ça commence à changer petit à petit. Que les Français apprennent à s'aimer, ils apprendront à aimer leurs enfants, à aimer leur famille, à aimer leur pays. Et plus ils vont aimer leur pays, plus ils vont aimer les autres. Je pense un peu à cette phrase de Gustave Thibon qui disait « On aime les grandes choses que par les petites. » Et non le contraire. Apprenez, comme je disais à des familles, je pense à une famille notamment qui s'est mise à prier avec les enfants. Ça a créé une paix intérieure. Eux-mêmes se sont intéressés à la famille élargie, aux voisins, etc. Et se sont engagés même dans des œuvres caritatives. C'est pas pour rien, par exemple, pour la journée des amitiés catholiques de Toulouse qu'on organise toujours en décembre, nous faisons venir des associations caritatives comme Enfants du Mékong, voyez, par exemple.
Alors, Père Jean-Bertrand Collat, comment répondre à cette inquiétude? Je prends un autre exemple. Parmi les apparitions mariales qui sont reconnues par l'Église en France, il y a cette apparition donc, à l'île Bouchard en 1947, où la Vierge serait apparue donc, à des petites filles pour leur demander de prier pour la France. Et à la prière des enfants, la France aurait été sauvée. Alors, comment comprendre ça? C'est parfois très difficile à comprendre. On se dit, donc le ciel s'intéresse, y compris au sort des pays et pas seulement des personnes.
Heureusement. Je crois qu'il faut repartir de ce que je vous disais tout à l'heure, de cette dimension sociale des personnes, et qui fait que chaque État, chaque nation, chaque pays, on parle de vocation, mais de fait, chaque pays développe des potentialités qui sont dans l'être humain, dans sa dimension personnelle et sociale, ce qu'on appelle la culture, et chaque culture est finalement comme les facettes d'un diamant, quelque chose qui exprime de manière particulière quelque chose qui est universel, mais que aucun être humain, aucun pays, aucune nation ne peut exprimer totalement. Voilà. Donc en ce sens, que chaque nation prie Dieu pour sa propre victoire, c'est une chose, mais on s'inscrit au fond dans cette idée que Dieu bénit finalement tout ce qui permet à l'homme, dans sa dignité, de grandir et d'exprimer quelque chose de cette dignité qui rend gloire à son Créateur. Bien. Il se peut qu'il y ait des déviances, ça Dieu ne va pas les bénir. Mais pour ce qui est de l'île Bouchard, par exemple, on était dans un contexte historique tout à fait particulier, donc on va dire, oui, il y a une dimension politique, certes, mais parce que là on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la dignité humaine. Vous le savez, on était en 47, un coup d'État plus ou moins élaboré était en place, de telle sorte que la République française devienne une république démocratique suite à une prise de pouvoir par les communistes.
Et la France était au bord de la guerre civile.
France était au bord de la guerre civile, et qui plus est, une guerre civile qui allait imposer un régime que les papes ont condamné, à raison justement, et on en a vu les conséquences, on les connaît, il n'y a pas besoin de les rappeler, puisque même le pape Pie XI parlait du communisme en le condamnant comme étant intrinsèquement pervers, il l'est parce qu'il s'en prend à la racine même de la dignité humaine. Et donc que le ciel s'intéresse et que la Sainte Vierge, que ça passe par la France, parce que c'est la France qui était touchée, mais il n'y a pas qu'elle qui était concernée par le problème, elle s'y intéresse, c'est on ne peut plus normal parce qu'on touche à quelque chose justement de fondamental. on est dans, on va dans le métapolitique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la racine de ce qui fait la dignité de la personne dans son individualité et dans sa dimension sociale, et qui permet de vivre, eh bien justement, dans cette liberté et cette dignité.
Alors, faut-il le préciser avant qu'on fasse une pause ? À la prière des enfants, donc après, enfin, en tout cas, après cette apparition mariale, après, c'est un acte de foi à poser, hein,
oui.
Mais, comment dire, les grandes manifestations, le risque de guerre civile
a été écarté du jour au lendemain. Et alors que c'était à deux doigts de se réaliser. Ça s'est joué à quelques jours.
Alors, il y a d'autres exemples comme ça dans l'histoire. Peut-être on fait une pause et puis on pourra évoquer, avant de parler de ce que vous dites, de ces différentes nations comme différents joyaux, comme chaque personne ayant quelque chose à exprimer.
Thank you.
Radio Présence à Mirande, 104.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, nous parlons de la prière pour la France. Je vous rappelle que nous sommes avec Benoît Flourieuse, qui est responsable du groupe de prière Saint-Louis de France, et puis d'autres membres de ce groupe de prière, donc Marie-Françoise Doucet, le père Jean-Bertrand Collat, qui est prêtre accompagnateur, et puis Nicolas Larger, qui est fondateur du site prions-pour-la-france.com. Alors, vous nous avez présenté à gros traits ce groupe de prière. Peut-être qu'on pourra y revenir à la fin de l'émission pour dire exactement ce que vous faites, et puis comment les gens peuvent se joindre à vous. On a essayé d'expliquer un peu la racine donc de cette prière pour la France, sa signification. Avant peut-être de parler de ce que vous avez commencé à évoquer, c'est-à-dire le fait que les nations comme les personnes en fait auraient des vocations particulières, ce qui parfois est très difficile à comprendre. J'aurais aimé que vous nous parliez un peu plus de ces interventions du ciel, parfois dans l'histoire des pays. Alors on a parlé de cette apparition à l'île Bouchard en 1947, il y en a une autre qui parfois n'est pas connue, qui est l'apparition de Pontmain. Donc en 1870, la France est envahie par la Prusse, et puis là c'est pareil, la Vierge Marie intervient. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être l'histoire, et puis après peut-être ce qu'il faut en comprendre?
Alors en 1871 je crois, la Vierge intervient à Pontmain alors que la France est attaquée par les Prussiens, et les Prussiens sont vers Orléans. Et la Vierge demande aux enfants de prier parce que la France est en grand danger. Et les enfants prient, et l'armée prussienne s'arrête comme arrêtée un peu à Orléans, et reflue à partir de ce moment-là. Donc il y a eu une action qu'on peut attribuer à la prière pour la Vierge, c'est une question de foi, mais qui est concomitante à cette apparition-là. C'est ça qui fait dire que Pontmain est une apparition importante pour la France.
Alors donc c'est une apparition qui est reconnue par l'Église, donc on imagine aussi que ce que la Vierge a demandé, en tout cas, peut être objet de foi. C'est pareil, je vous repose la question, père Jean-Bertrand Collat, on peut avoir du mal à comprendre, si on se dit quoi? On se dit, bon alors la Vierge, elle préfère les Français, et elle préfère donc que les Français aux Prussiens, mais alors qu'est-ce que c'est que cette Vierge qui, elle n'a pas son drapeau français au ciel, et elle n'est pas nationaliste. Je suis désolé de reposer la question, mais je pense que c'est vraiment important de préciser.
Bon. Je crois qu'on n'est pas quand même le seul pays à revendiquer ce genre de choses. Si Jean-Paul II a tant écrit sur justement l'unité des nations et le service de leur vocation propre, à raison de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien parce que la Pologne est dans ce même type de démarche aussi. Le pape Jean-Paul II a suffisamment écrit justement sur les nations et leur rôle. Alors il s'agit bien de le comprendre, c'est pas parce qu'on dit nation qu'on parle de nationalisme. De même que quand on parle de patrie, on ne parle pas de quelque chose de racie, comme certains le disent.
Il n'y a pas forcément une dimension immédiatement belliqueuse ou guerrière.
La patrie, c'est quoi? Si j'en prends la définition tout à fait traditionnelle, c'est le lieu de la naissance et de l'éducation. D'accord? C'est-à-dire, c'est le lieu où l'on reçoit ce qui nous permet de nous constituer, de le faire nôtre et de le transmettre. Et du coup, même d'avoir cette tenue et cette capacité, parce qu'on est quelque chose, qu'on est quelqu'un, cette capacité de pouvoir accueillir et s'ouvrir à l'autre. Sinon, de fait, on n'a rien à être, puisqu'on n'est rien, on n'a rien à ouvrir. Et il en est un peu pareil pour les nations, à raison de ce que je vous disais, de cette dimension culturelle. Alors, que la Très Sainte Vierge intervienne, bon, ben, c'est un exemple concret de sa protection sur un pays.
Elle intervient pour d'autres. Pour la paix, peut-être.
Elle intervient aussi pour la paix. Elle intervient, on le voit aussi, pour Fatima. À Fatima, il est demandé de prier, non pas tant pour le Portugal qui n'était pas en guerre, mais pour la fin, la cessation de cette guerre de 14-18, qui est une véritable guerre civile entre Européens, de telle sorte qu'on puisse restaurer cette paix. Je vous dirais qu'ensuite, c'est une injonction même que l'on trouve chez saint Paul de prier pour son pays. Et justement, vous n'avez qu'à relire la première à Timothée, où il est dit « Priez pour le roi », donc c'est pour les autorités publiques, « de façon à ce que vous puissiez vivre dans la paix et dans la dignité que vous avez reçue ». Bon. C'est très exactement ce qui se passe. Toute guerre, de toute façon, il y a toujours c'est du gris. Rien n'est jamais tout blanc d'un côté, ni tout noir de l'autre, mais il faut bien que ça cesse à un moment donné. Et Marie, qui est bonne mère, qu'elle s'occupe de ceux qui se sont confiés à elle de manière plus particulière, ça n'est pas du dédain pour les autres, mais c'est aussi une manière d'arrêter lorsque le mal prend des proportions qui risquent de détruire tout le monde.
Marie-Françoise Doucet, je me tourne vers vous, parce que peut-être qu'il faut se tourner vers une femme pour bien comprendre. Donc vous participez au groupe de prière Saint-Louis de France, et puis vous avez demandé à ce qu'on prie le rosaire pour la France. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans votre cœur de femme, comment vous comprenez ces apparitions peut-être de la Vierge Marie ?
C'est la tendresse d'une mère. La Vierge Marie est notre mère à tous, et nous en avons énormément besoin. Et souvent, on ne se rend pas compte. Mais elle est là, elle agit, et elle ne demande que la prière. Et souvent, on ne voit pas les résultats, on ne se rend pas compte. Mais après, avec le recul, on peut voir ses agissements très discrets, comme elle a été pendant sa vie terrestre. Au départ, quand j'ai intégré le groupe, nous prions le chapelet. Et ensuite, j'avais ce désir au fond de mon cœur énorme de prier le rosaire pour égrener toute cette couronne de roses pour lui faire plaisir, elle qui est la patronne principale de la France. Donc Benoît m'a donné la possibilité de le faire. Et ce rosaire, je dirais, c'est une respiration. D'abord la nôtre, et ensuite la respiration de notre pays. C'est insuffler par notre petit moyen, bien sûr, c'est Dieu qui fait, la vie à notre pays, la vie à notre groupe, la vie à notre âme, et aussi à l'âme de tous ceux qui vivent en France. Et bien sûr, comme la France est fille aînée de l'Église, la vie à tous les gens dans le monde qui en ont énormément besoin, et redonner cette espérance. Alors, je précise, oui. Important, l'espérance.
France, fille aînée de l'Église, ça, on l'a cité plusieurs fois, on va en parler maintenant. Avant, je voulais que vous parliez de cette neuvaine. Alors, de fait, il n'y a pas que le groupe de prière Saint-Louis qui prie pour la France, puisqu'il y a même une grande neuvaine pour la France qui a été lancée donc, l'année dernière, en 2014, et qui s'est finie le 15 août 2015, et qui a été soutenue par de nombreux évêques, et entre autres sous le patronage du cardinal Barbarin. Alors, on n'imagine pas forcément que c'est peut-être pas nouveau, enfin, moi en tout cas, vu de mon âge, c'est vrai que je me suis dit, j'étais surpris par cette grande neuvaine. Alors Benoît Florius, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette grande neuvaine pour la France, peut-être sa genèse et en quoi elle a consisté ?
À l'origine, il faut savoir que beaucoup de groupes de prière se sont montés dans les années 90 pour préparer la venue du pape Jean-Paul II en 1996. C'est comme ça que notamment le groupe Saint-Louis de France a existé. Et en France, on a eu des centaines de groupes, d'une façon informelle. D'autres, après la venue de Jean-Paul II, ont disparu et d'autres se sont maintenus. Mais vu la crise morale et spirituelle que le pays traverse, qui n'est pas simplement français, mais européen, voire même international, l'urgence de la prière s'imposait. Et c'est pour ça que les autorités religieuses, Monsieur Barbarin par exemple, ont lancé un peu cette neuvaine, et qui a eu un énorme succès. Moi j'étais étonné, en étant en lien avec le groupe Saint-Louis, avec des tas d'autres groupes, je vois les gens qu'on rencontre dehors, ils me disent « mais oui, nous avons participé ».
25 000 personnes,
hein, c'est ce que vous
dites. 25 000 personnes étaient inscrites à la neuvaine, des communautés religieuses, des particuliers, 25 000 personnes priaient tous les jours pour la France.
Alors, Père Jean-Bertrand Collat, je me tourne à nouveau vers vous, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui peut poser question, c'est qu'on a l'impression qu'on prie par peur, c'est-à-dire qu'on prie parce que ce serait la catastrophe, que tout irait mal, et que décidément il faudrait que la Sainte Vierge arrive parce que notre pays va plus que droit dans le mur. Est-ce à dire que la Sainte Vierge poserait, alors vous n'êtes pas la Sainte Vierge, vous me direz, mais pose ce regard sur notre pays, est-ce qu'on prie d'abord en réaction à ou est-ce qu'on prie d'abord par peur ?
Non.
C'est-à-dire, précisez.
Non. Il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps où un prêtre a cette formule on parle beaucoup trop du péché et pas assez des vertus. Prier pour son pays, c'est redécouvrir, non pas par peur de... Il y a des choses qui vont mal. Très bien, on le sait. Il y a des choses qui vont mal. Il y a des décisions qui se prennent qui sont contraires à beaucoup de choses. Et bien, ce qu'il faut, c'est commencer par restructurer les choses. On ne se détermine pas en fonction du mal ou du péché, on se détermine en fonction du bien qui est à acquérir et à mettre en place. Et donc, prier pour son pays, je crois que d'abord, fondamentalement, c'est retrouver ce sens du bien commun, le service du bien commun, qu'il soit dans sa dimension naturelle, et de permettre aussi que ce bien commun ait son ouverture sur la destinée, sur la destination surnaturelle de tout être humain, lui donner les moyens de le découvrir, de le vivre, etc. Voilà. Donc je crois que prier pour son pays, c'est essentiellement cela. Retrouver dans cette vocation que le Concile Vatican II rappelle universelle à la sainteté, eh bien, le service à travers du bien commun tout à fait naturel, ce qui va permettre à tout un chacun de pouvoir trouver sa voie et accomplir aussi sa vocation. Sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque pays, par sa culture, présente quelque chose qui justement doit être recueilli, enrichi, transmis, de telle sorte que justement cette dignité de la personne et cette dignité des pays puissent se vivre justement sous le regard de Dieu et accomplir pleinement cette vocation à la sainteté.
Benoît Florieux, est-ce que les gens au groupe de prière Saint-Louis, ils viennent par peur ou est-ce qu'ils viennent en fait justement parce qu'ils ont envie d'insuffler la vie ?
Certains peuvent peut-être venir par peur, parce que les gens, certaines personnes qu'on rencontre sont un peu déboussolées, ils se disent « mais où va-t-on ?» Mais aussi, par contre, ils viennent parce qu'ils ont faim. Je pense que les gens qu'on rencontre, ils ont faim, parce qu'ils ont besoin de retrouver l'espérance, retrouver des repères. Et souvent, certains me disent, j'étais encore avec un Français d'origine étrangère, il me dit, mais je ne reconnais pas la France des années 70. Oui, c'est pas si loin que ça. Et c'est vrai que tout va vite dans le monde moderne. Donc, tous les repères sont bousculés. Donc, étancher notre soif spirituelle, demander des grâces, bien sûr des grâces aussi de protection, mais des grâces, des repères, et cultiver cette espérance qui nous manque tant. Parce qu'on parle de la foi, on parle de l'amour, c'est vrai que c'est un acte d'amour, de charité, c'est un acte politique mais au sens noble du terme, mais c'est surtout retrouver cette espérance qui nous manque tant dans le monde moderne.
Alors, on a parlé beaucoup de cette phrase, donc vous l'avez citée à plusieurs reprises, cette phrase donc du pape Jean-Paul II qui en 1986 a eu cette adresse, qui a adressé cette invective un peu à l'Église de France et à tous les chrétiens en France en disant « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Alors, on a compris pourquoi la France serait la fille aînée de l'Église, hein, vous nous l'avez fait bien comprendre, Nicolas Larger. En tout cas, parfois, c'est peut-être difficile à comprendre. Si vous deviez redire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire « France, fille aînée de l'Église » et quelle serait un peu la vocation de la France dans ces cas-là, la vocation particulière au milieu de toutes les nations. Alors à ce titre-là, pour peut-être introduire votre réponse, je citerai un passage d'un livre qui s'appelle « Connaître et aimer son pays » du père Bernard Pérouse, qui est prêtre de la communauté de l'Emmanuel, et qui cite entre autres Cara Lubick. Alors Cara Lubick, c'est donc la fondatrice des Focolari, qui est un grand mouvement d'église post-conciliaire, qui est international, donc on peut pas accusé d'être pro-français plutôt qu'autre chose, et qui dans ses écrits en fait dit son admiration en fait pour ce que chaque peuple a donné. Et alors elle dit pour la France la chose suivante, elle dit à un moment: j'ai cru découvrir quelque chose de la personnalité des Français, j'ai trouvé en eux une profondeur, une acuité, une intelligence qui m'ont poussé à les aimer plus que jamais. Alors bon, la phrase est peut-être pas forcément choisie, mais en tout cas, il y aurait quelque chose dans la France et chez les Français de particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, Benoît Florieus?
On a beaucoup reçu, on a cet héritage qui est très riche. Nos anciens s'en étaient rendus compte, mais depuis ces derniers temps, enfin depuis plus d'un siècle, au fur et à mesure, on a un peu renié cet héritage. C'est ce que beaucoup d'étrangers ne comprennent pas. Je me parle avec des Libanais, ils disent mais on vous comprend pas, vous avez tellement reçu, vous nous avez tellement donné, Vous avez une vocation particulière. Vous êtes en... Vous avez une destinée. Il y a un destin, une notion de destin. Et souvent, il y a plus d'étrangers qui aiment la France que des Français qui aiment la France. C'est ça qui est quand même paradoxal. Je parle par exemple des Libanais. On est en contact beaucoup avec les chrétiens d'Orient. Ils attendent beaucoup de nous. Et voilà.
Alors, Père Jean-Bertrand Collat, qu'est-ce que ça veut dire cette vocation de la France? Ma citation n'était pas forcément bien choisie. Ce que j'en ai compris, c'est que la vocation de la France, c'est de mettre l'homme à la première place et d'essayer de dire quelque chose de la nécessité pour l'homme d'être en relation avec son Dieu.
Ben, je crois que il y a de ça. Le pape tout à l'heure, là, Nicolas citait une phrase du pape Jean-Paul II, rappelant justement cette dimension de la France, qui est de porter le Christ, aux nations. Il est un fait que la France a été un des pays les plus missionnaires, hein, et ce de tout temps. Elle est un pays qui, par ses autorités politiques, a très tôt aussi voulu assurer une protection des populations chrétiennes, notamment pour leur permettre d'exercer librement leur foi. Et on voit actuellement que la France y a en grande partie renoncé, de manière quasi publique, mais un certain nombre de chrétiens d'Orient nous font le reproche justement de les laisser tomber. Et ça n'a rien à voir d'une histoire de haine contre ceux qui pourraient les entraver ou les persécuter, mais c'est une question de permettre cette liberté de vivre sa foi au Christ et de la transmettre. Donc... je crois qu'une vocation, c'est d'abord et avant tout un service de ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'on peut appeler l'âme d'un peuple, qui est finalement dans ce qu'il a structuré, qui lui a donné ce qu'elle est d'être, et qui lui donne finalement plus de devoirs que de droits. C'est pour ça que il faut pas tomber non plus dans une espèce d'orgueil ou de fierté mal placée. On n'est jamais que des serviteurs de cette vérité, comme disait le pape Jean-Paul II, de l'homme, c'est-à-dire de sa dignité, dans sa dimension naturelle et dans sa ouverture justement à cet amour qui vient de Dieu et pour lequel il est fait. Voilà, et en prenant les moyens aussi humbles, petits, que peuvent être des groupes de prière, que les grandes congrégations de missionnaires qui ont pu fournir des martyrs, qui ont pu fournir des gens qui ont permis à d'autres pays de se structurer, de trouver eux aussi leur propre vocation et de s'ouvrir justement à cet universel. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler de cette prière pour la France, de nous aider à comprendre ce que ça voulait dire vraiment, au-delà peut-être des clichés ou des a priori. Si vous voulez rejoindre le groupe de prière Saint-Louis de France, les rejoindre par la prière, mais aussi physiquement, aller prier avec eux, vous pouvez retrouver toutes leurs activités sur le site www.prionspourlafrance.com. Et puis peut-être pour rappel, le site de la Neuvaine pour la France, donc qui était sous le patronage donc du cardinal Barbarin, sur www.laneuvaine.fr. Merci beaucoup à chacun. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet radioprésence.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin avec Monseigneur Le Gall.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.